Quatrième jour, tierce. Uatso se débat dans les peines d'amour, puis arrive Guillaume avec le texte de Vénantius, qui continue à rester indéchiffrable, même après avoir été déchiffré.
En vérité, passé ma rencontre coupable avec la jeune fille, les autres terribles événements m'avaient presque fait oublier cette aventure, et par ailleurs, sitôt après m'être confessé à frère Guillaume, mon âme s'était soulagée du remords, ressentie à mon réveil qui suivit ce fautif fléchissement, tant et si bien qu'il m'avait semblé remettre au frère, en parole, le fardeau même que les mots signifiaient. À quoi sert en effet la bienfaisante purification de la confession, sinon à décharger le poids du péché et du remords qu'il comporte, dans le sein même de notre Seigneur, en obtenant avec le pardon une nouvelle aérienne légèreté de l'âme, à en oublier le corps supplicié par l'infamie. Mais je ne m'étais pas libéré du tout. Maintenant que je déambulais au pâle et froid soleil de cette matinée hivernale, entouré de la ferveur des hommes et des animaux, je commençais à me souvenir des événements passés de façon différente. Comme si de tout ce qui était arrivé ne restait plus le repentir et les paroles consolatrices de la purification pénitentielle, mais seules des images de corps et de membres humains. Surgissait devant mon esprit surexcité le fantôme de Béranger gonflé d'eau, et je frissonnais d'horreur et de pitié. Puis, comme pour mettre en fuite ce lémur, mon esprit s'adressait à d'autres images dont la mémoire fut le frère réceptacle. Et je ne pouvais éviter de voir, évidente à mes yeux, aux yeux de l'âme, mais comme si elle apparaissait presque aux yeux de la chair, l'image de la jeune fille, resplendissante et redoutable comme des bataillons prêts à l'assaut. Je me suis promis, vieux copiste d'un texte jamais écrit jusqu'alors, mais qui pendant de longues décennies a parlé dans mon esprit, d'être chroniqueur fidèle, et non pas seulement par amour de la vérité, ni pour le désir d'ailleurs fort digne d'instruire mes lecteurs futurs, mais en outre, pour libérer ma mémoire flétrie et lasse de visions qui durant toute une vie l'ont tourmentée. Et donc, je dois dire tout, avec décence mais sans honte, et je dois dire à présent, et en toutes lettres, ce qu'autrefois je pensais et tentais presque de me cacher à moi-même en me promenant à travers le plateau, en me mettant parfois à courir afin de pouvoir attribuer au mouvement du corps les palpitations soudaines de mon cœur, en m'arrêtant un instant pour admirer l'ouvrage des vilains et en imaginant me distraire à les contempler, en inspirant l'air froid à plein poumon comme qui boit du vin pour oublier peur et douleur. En vain, je pensais à la jeune fille. Ma chair avait oublié le plaisir intense, coupable et passager, vile chose, que m'avait donné mon union avec elle, mais mon âme n'avait pas oublié son visage, et n'arrivait pas à sentir comme pervers ce souvenir. Elle en frémissait plutôt, comme si en ce visage resplendissaient toutes les douceurs de la création. Je percevais de manière confuse et presque en me refusant à moi-même la vérité de ce que je sentais, que cette pauvre créature souillée et hontée, qui se vendait, savoir avec quelle insolente constance à d'autres pécheurs, cette fille d'Ève, qui, fragile comme toutes ses sœurs, avait si souvent fait commerce de sa propre chair, était toutefois quelque chose de splendide et de prodigieux. Mon intellect la savait source de péché, mon appétit sensitif la percevait comme le réceptacle de toute grâce. Il est difficile de dire ce que j'éprouvais. Je pourrais tenter d'écrire que, encore pris dans les raies du péché, je désirais, coupablement, la voir apparaître à chaque instant, et que j'allais presque jusqu'à épier le travail des ouvriers pour scruter si du coin d'une cabane, de l'obscurité d'une étable, apparaissait la silhouette qui m'avait séduit. Mais je n'écrirais pas le vrai, ou bien je tenterais de placer un voile devant la vérité pour en atténuer la force et l'évidence. Car la vérité est que je voyais la jeune fille. Je la voyais dans les ramures de l'arbre nu qui palpitait, légère, comme un passereau transi volait y chercher des refuges. Je la voyais dans les yeux des génisses qui sortaient de l'étable, et je l'entendais dans le bêlement des agneaux qui croisaient mon errance. C'était comme si toute la création me parlait d'elle, et je désirais, oui, la revoir, mais j'étais aussi prêt à accepter l'idée de ne la revoir plus jamais, de ne plus jamais m'unir à elle, pourvu que je pusse jouir du bonheur qui m'envahissait ce matin-là, et à jamais l'avoir près de moi, eût-elle été, et pour l'éternité, loin de moi. C'était, je m'évertue à comprendre à présent, comme si l'univers entier, qui visiblement est presque un livre écrit par le doigt de Dieu, où chaque chose nous parle de l'immense bonté de son Créateur, où chaque créature est presque écriture et miroir de la vie et de la mort, où la plus humble rose se fait glose de notre cheminement terrestre, comme si tout en somme ne me parlait de rien d'autre que du visage que j'avais malaisément entrevu dans les ombres odorantes des cuisines. Je m'abandonnais à ces imaginations, car je me disais, ou mieux je ne me disais pas parce qu'à ce moment-là je ne formulais point de pensée traduisible en mots, que si le monde entier est destiné à me parler de la puissance, bonté et sagesse du Créateur, et si ce matin-là le monde entier me parlait de la jeune fille, qui pour pécheresse qu'elle fût, était bel et bien un chapitre du grand livre de la création, un verset du grand psaume chanté par le cosmos, je me disais, à présent je dis, que si cela se produisait, ce ne pouvait pas ne pas faire partie du grand dessein théophanique qui régit l'univers, disposé en forme de lyre, miracle de correspondance et d'harmonie. Quasi grisé, je jouissais alors de sa présence à elle dans les choses que je voyais. Et en elle, la désirant, à les voir, je m'assouvissais. Et pourtant, je sentais comme une douleur, car en même temps, je souffrais d'une absence, tout en étant heureux de tous ces fantômes d'une présence. J'ai de la peine à expliquer ces mystères de contradiction. Signe que l'esprit humain est très fragile et ne va jamais directement le long des sentiers de la raison divine qui a construit le monde comme un parfait syllogisme. Mais de ce syllogisme ne saisit que des proportions isolées et souvent disjointes, d'où notre facilité à tomber victime des illusions du malin. Était-ce une illusion du malin, celle qui ce matin-là me donnait une telle émotion? Je pense que oui aujourd'hui, car j'étais novice. Mais je pense que l'humain sentiment qui m'agitait n'était pas mauvais en soi, mais seulement en regard de mon état. Parce qu'au fond, c'était le sentiment qui pousse l'homme vers la femme afin que l'un s'unisse à l'autre, comme veut l'apôtre des gentils, et que tous deux soient chairs d'une seule chair, et qu'ensemble, ils procréent de nouveaux êtres humains et s'assistent mutuellement de la jeunesse à la vieillesse. Sauf que l'apôtre parla ainsi pour ceux qui cherchent remède à la concupiscence et pour qui ne veut brûler, en rappelant toutefois que l'état de chasteté est de loin préférable, auquel, en tant que moine, je m'étais consacré. Et j'endurais donc ce matin-là ce qui était mal pour moi, mais pour les autres peut-être, et fort suave, bien. Et par là je comprends que mon trouble n'était pas dû à la perversité de mes pensées, en soi digne et douce, mais à la perversité du rapport entre mes pensées et les vœux que j'avais prononcés. Par conséquent, je faisais mal de jouir d'une chose bonne pour une certaine raison, mauvaise pour une autre, et mon défaut se trouvait dans la tentative de concilier l'appétit naturel avec les lois édictées par l'âme rationnelle.